dans l'actualité des idées aujourd'hui, quelle part de notre humanité brûle avec la forêt? La philosophe Joëlle Zask s'est penchée sur la relation contradictoire que nous entretenons avec la nature à travers le cas des méga-feux. Alors que l'Amazonie se consume, l'auteur de « Quand la forêt brûle » aux éditions Premier Parallèle nous invite à penser autrement la nouvelle catastrophe écologique. Bonjour à vous Joëlle Zask.
Bonjour.
Aujourd'hui c'est l'Amazonie qui occupe toute notre attention, mais depuis quelques années déjà, ces immenses feux de forêt se multiplient. C'est leur puissance qui est extrêmement nouvelle et inquiétante. Quelles certitudes sont en train de partir en fumée, ou tout au moins quelles certitudes sont ébranlées en ce moment à travers ces méga-feux?
Eh bien, je dirais presque toutes nos certitudes. D'abord, la certitude de savoir quelque chose des feux. Et effectivement, il faut peut-être insister d'emblée sur le fait que ces méga-feux sont des objets nouveaux, qui sont sans précédent, qui sont tout à fait inédits, qui existent depuis une dizaine d'années, et qu'il est difficile de penser tant, disons, nos rhétoriques habituelles concernant le feu, soit monstre à abattre, soit au contraire, disons, éléments de l'équilibre, déséquilibre naturel, sont prégnants. Et donc, je crois que déjà, ce que nous apprend en quelque sorte l'émergence du méga-feu, c'est nos difficultés à sortir d'un certain dogmatisme, à sortir, disons, des discours bien rodé, qui commande nos relations générales à la nature. Donc ces relations, en fait, elles sont de deux ordres. Là, comme je viens de l'énoncer, vous avez d'un côté l'idée d'une domination de la nature, d'une maîtrise qui va jusqu'à sa destruction, voire à se substituer à elle, son arraisonnement, voilà un terme qui a souvent été utilisé. Et puis de l'autre, l'idée, voilà, un préservationnisme à tout craint, l'idée que finalement, moins la nature est habitée par les hommes, moins elle est modifiée par l'humanité, et mieux ces équilibres sont-ils préservés. Et donc je crois que c'est déjà cela que le méga-feu, si tant est que nous arrivions à l'objectiver, à en prendre acte, à en parler, à se dire que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas ce qui se passait hier, eh bien c'est cela que nous apprend déjà cet événement écologique majeur. Et en même temps, il nous en apprend long sur... Je dirais nos difficultés intellectuelles, sensibles, émotionnelles, théoriques à faire face à la réalité, et à avoir les yeux en face des trous, je dirais presque.
Avec l'Amazonie, depuis quelques semaines, est-ce que vous avez le sentiment qu'on commence à trouver les mots justes pour en parler?
Oui, même si l'Amazonie brûle depuis une bonne dizaine d'années, même si parallèlement à l'Amazonie se produisent des feux tout aussi catastrophique et d'un autre ordre que ce qu'on connaissait dans le passé en Alaska, en Alberta, en Indonésie, et puis aujourd'hui en Bolivie. Hein, en Bolivie, là, l'information est en train de se déployer. Les feux en Bolivie menacent même des trésors historiques de l'humanité, notamment tout un art rupestre. Donc, effectivement, je crois qu'il ne faut pas non plus relativiser, tomber dans un relativisme qui viendrait couper l'herbe sous le pied de ceux qui émettent finalement aujourd'hui des jugements qui sont susceptibles d'être entendus. Des jugements qui sont susceptibles de changer la donne, et des jugements qui sont susceptibles d'accélérer la prise de conscience que à la fois le catastrophisme, je dirais, le climato-scepticisme sont voilà des attitudes inutiles, je dirais, en tout cas problématiques sur le terrain. Donc oui, il faut entendre. Je pense que l'Amazonie, c'est un petit peu, elle est à la forêt ce que Notre-Dame est à la ville. C'est-à-dire que c'est un symbole. Il est vrai que l'Amazonie est un phénomène qui cache, dont on en parle maintenant, qui cache beaucoup d'inégalités, qui cache des rapports, je dirais, à la forêt extrêmement contrastés. On en parle comme d'une entité, alors qu'en fait, elle est à cheval sur plusieurs pays. On en parle comme d'un poumon, alors qu'elle ne produit que 5% de l'oxygène de la planète. Donc, il y a beaucoup de poumons sur la planète. Mmh. Et elle en est un, fondamental. Mais donc, il y a toute une mythologie, une espèce de, justement, de disons, de sacralisation et de substantialisation de l'Amazonie, qui est un tort, qui est un tort fait au peuple autochtone, qui est un tort fait à la biodiversité, qui est un tort fait aussi à ceux qui subissent des politiques extractivistes d'une irresponsabilité, d'une criminalité extrême. Mais en même temps, il faut entendre ce qui est dit et profiter, utiliser ce premier pas en quelque sorte, qui coïncide avec la parution de mon livre. Je m'en étonne. Mais en tout cas, l'utiliser comme un tremplin, justement, pour aller plus loin, comme le font d'ailleurs les jeunes qui marchent pour le climat. Donc, l'Amazonie, c'est un électrochoc, je dirais, qui peut nous mettre sur la voie d'une pensée renouvelée des rapports homme-nature.
Et c'est pas pour verser dans un catastrophisme loin de là, ni pour faire peur que des scientifiques emploient quand même aujourd'hui des mots qui sont assez forts concernant ces méga-feux, avec des effets qui sont comparés par certains à une guerre nucléaire, fumée, suie, émission de particules, l'air brûle aussi à travers ces méga-feux, ce qui en fait aussi une particularité. On pense aussi aux scénarios de la NASA qui sont tout aussi inquiétants et qui comparent ces méga-feux feu à des sortes d'apocalypse par les effets qu'elle peut produire. Alors vous le disiez, au moment où vous écrivez ce livre, Joël Zask, quand la forêt brûle, c'est pas l'Amazonie qui est en feu, mais c'est peu après les incendies qui ont eu lieu en Californie, sur lesquels vous revenez d'ailleurs assez longuement. On va écouter un extrait d'un reportage de France 24. On est alors le 16 novembre 2018.
Vu du ciel, les colonnes de fumée paraissent interminables. Près de 57 000 hectares de forêt ont déjà été dévorés par les flammes et l'incendie n'est pour l'instant contenu qu'à 40%.
L'ampleur de la dévastation, les incendies sont graves, celui-ci ne connaît aucun précédent. C'est insoutenable que cela se produise année après année.
À Paradise, pas un seul bâtiment n'a résisté.
Nous allons devoir mieux gérer nos forêts, nous allons devoir construire nos villes plus intelligemment et nous allons devoir construire des abris pour que les gens puissent se réfugier lorsque ces terribles incendies dégénèrent.
Voilà, Campfire en Californie en 2018, puissance du feu, rapidité aussi de sa propagation avec des phénomènes assez nouveaux comme ce que vous appelez ces ouragans de feu qui se produisent là pour la première fois. Vous revenez aussi sur les mots qu'a eu le président américain Donald Trump à ce moment-là, qui pointe une gestion désastreuse des forêts. Il y a eu un défaut de prévention.
Alors oui, il y a un défaut de prévention, mais il y a un défaut généralement d'entretien de la forêt. Et effectivement, disons que le schème, le paradigme de la lutte contre les feux comme ennemi à abattre, la rhétorique guerrière, l'emporte très très largement sur les discours qui relèveraient de la prévention. Et c'est pas un hasard, puisque très précisément, je dirais que, la rhétorique guerrière est la suite logique de l'idéologie d'une domination de la nature, le feu faisant partie de la nature, l'idée qui nous échappe et la caractéristique des méga-feux, c'est qu'ils sont proprement incontrôlables et inextinguibles. Donc l'idée qu'ils nous échappent n'est même pas en quelque sorte intégrée dans le logiciel que nous mettons en place pour y faire face. Alors Trump, comme Poutine d'ailleurs, ou Bolsonaro, en prennent acte, en tout cas témoignent de ce qu'effectivement, si les feux sont incontrôlables, c'est parce qu'il y a une faute humaine. Et que cette faute humaine, elle est à très court terme, c'est un défaut des forestiers, c'est un défaut des responsables des forêts et des parcs naturels. Donc la faute est imputable aux pompiers, la faute est imputable à l'homme, la faute est imputable aux responsables directs, mais en revanche, disons, des causes plus lointaines sont inaperçues. Et en particulier, je dirais presque le concert d'actions et de voix qui serait nécessaire au changement culturel majeur qui nous permettrait de renouveler des pratiques de soins de la nature, évidemment, n'est pas du tout au rendez-vous, il n'est pas mobilisé. Donc je pense qu'il faut, la possibilité d'auto-organisation plurielle en faveur d'une prévention des feux est tout à fait là. On a d'ailleurs une fenêtre assez importante pour la mettre en œuvre, mais que cette prévention, évidemment, doit prendre des formes à la fois décentralisées, des formes d'engagement, des formes de concernement, des formes d'association, de collaboration entre plein de disciplines, entre plein de gens, entre plein de peuples, dont ceux qui sont tenus pour primitifs ou arriérés, y compris nos paysans français d'ailleurs, qui ne sont pas mieux considérés que les sauvages d'Amazonie. Et donc l'ensemble des populations concernées serait à même, je pense, de faire face finalement à cette épidémie de méga-feux qui aujourd'hui, effectivement, quand on en décrit les conséquences, sont proprement terrifiants.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que les méga-feux questionnent aussi notre confiance en la rationalité du contrôle et de l'aménagement du territoire? Que le feu, finalement, est aussi un agent perturbateur de cela?
Oui, ça perturbe parce que, précisément, c'est cette idéologie de la maîtrise de la nature et du contrôle qui mène au réchauffement climatique, qui est une cause majeure du méga-feu. C'est-à-dire que l'idée qu'on puisse se substituer à la nature, l'idée qu'on puisse l'aménager de manière à ce qu'elle réponde entièrement à nos attentes et que la marge d'imprévisibilité que contiennent les phénomènes naturels soit supprimée à la racine, si je peux dire sans mauvaise métaphore. Donc tout cela, évidemment, est nécessaire, enfin disons, constitue l'ensemble des ingrédients très schématiquement qui justifient la civilisation industrielle et sa force de frappe, et qui justifie aussi l'idée que, disons, face à un manquement industriel, doit exister une réponse technologique, technocratique et industrielle plus sophistiquée. Donc on voit comment finalement les politiques d'aménagement rationnel d'un territoire soumis en quelque sorte à un contrôle prévisible humain, et en général d'ailleurs tout à fait moniste ou unilatéral et générateur de très profondes inégalités, finalement explique aussi bien... l'aggravation de la crise climatique, que le maintien du paradigme d'une lutte à mort, en quelque sorte, contre les feux, que malheureusement on est sûr de perdre si les termes restent ceux-là.
Mais cette fameuse guerre du feu, c'est cette question qui s'est beaucoup posée avec les incendies en Amazonie. Qui brûle la forêt? La probabilité de tels incendies devrait encore doubler, voire tripler d'ici 2050, selon une étude récente de Harvard. On arrive à dresser exactement les causes de ces méga-feux. On parle de la sécheresse, du réchauffement climatique. On a aussi ouvert la porte à la critique des logiques d'exploitation industrielle de la forêt. Est-ce qu'on peut mesurer où est la part de responsabilité de l'homme dans ces méga-feux?
Mais je dirais que la part de responsabilité de l'homme, elle est totale, en quelque sorte, et que tous ces feux sont d'une manière ou d'une autre criminels. Et je voudrais un peu insister là-dessus. Mais d'abord, rappeler qu'il est vrai que les prévisions des écologues, des climatologues et de la NASA en particulier concernent, entre autres, l'Amazonie, mais que des rapports énoncent aussi le fait que à peu près plus de la moitié des municipalités françaises vont être exposées au risque du feu d'ici 2050. Donc, je pense que personne n'est à l'abri aujourd'hui. Il faut prendre conscience de ça. C'est que le feu n'est plus un phénomène lointain. Enfin, nous, en Méditerranée, en Corse, on le sait. Mais on le sait aussi de plus en plus dans les Vosges, on le sait dans l'Aude, on le sait un peu partout dans le Sud-Ouest. Donc, je veux dire, les feux se rapprochent. Et je crois que c'est ce qu'enregistre la NASA. Il faut donc... disons, au lieu de parler au nom de cultures lointaines, de peuples opprimés, enfin, ce qui est important aussi, mais voir que cette oppression et les dangers qui nous guettent sont aussi à notre porte, en quelque sorte. Et je voudrais un petit peu insister là-dessus. Ensuite, il y a évidemment beaucoup de causes du méga-feu. Je voudrais aussi préciser que les méga-feux ne sont qu'un des effets, bien sûr, du réchauffement climatique. Les méga-feux sont un effet parmi d'autres, peut-être pas le plus grave, je n'en sais rien. En tout cas, je suis pas écologue. Mais en tout cas, c'est un effet qui est si notable qu'on peut en parler justement comme un accélérateur d'opinion, un signal d'avertissement, dans la mesure où le feu exerce à la fois une fascination et une terreur. Donc, je l'ai personnellement abordé de cette façon. Alors, en ce qui concerne la dimension criminelle des feux, je dirais qu'il y en a que d'abord 85 à 98% des feux sont générés par les activités humaines et non par d'autres causes, et certainement pas par des causes naturelles. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc les activités humaines ont une part énorme concernant le déclenchement déjà des feux, leur ignition. Par ailleurs, clairement, les feux sont liés au réchauffement climatique puisque ce sont les périodes de sécheresse de plus en plus prolongées, l'allongement de la saison du feu, le réchauffement, l'augmentation des températures et les stress hydriques, en gros, qui génèrent bien sûr ces méga-feux. Et puis il y a une autre cause qui me semble importante, qui est le manque d'entretien de la forêt. C'est-à-dire que le fait que les forêts ont été abandonnées, par le pastoralisme, par la cueillette, la chasse en particulier, par les activités paysannes à cause de l'exode rural. Et en l'occurrence, ces forêts non entretenues sont des forêts encombrées de combustible, de matière sèche, qui transforment la forêt en torche dès la première étincelle. Donc c'est cette congruence entre le réchauffement climatique et le manque d'entretien de la forêt, à quoi s'ajoute bien sûr le fait que les gens qui vivent dans la forêt aujourd'hui, qu'il s'agisse de rurbains, qu'il s'agisse de touristes ou qu'il s'agisse de simples résidents, ne connaissent pas grand-chose à la forêt et ont une attitude prédatrice, à quoi s'ajoute bien sûr ce que Singh appelait la plantation, c'est-à-dire le remplacement d'une forêt diversifiée. Elle n'est pas primaire, hein, mais en tout cas elle est diversifiée. Et d'ailleurs les usages anthropiques de la forêt veillaient à cette diversification des espèces et au maintien de cette diversité. Mais en tout cas, le remplacement de cette forêt diversifiée par des plantations destinées à la production industrielle de la biomasse est évidemment aussi un facteur profondément aggravant. On le voit en particulier en Indonésie, en Bolivie, au Chili, et surtout, je dirais presque en Indonésie, à Bornéo, à Java, à Sumatra, où des dizaines de milliers d'hectares sont remplacés par du palmier à huile, qui flambe à la première étincelle, qui évidemment aussi justifie l'usage massif d'intrants de toutes sortes, qui stérilise les sols, qui affame bien sûr les populations, tout en produisant, provoquant des maladies terrible sur leurs enfants.
Voilà, donc c'est l'occasion, on vous entend aussi, de s'interroger sur les orientations prises hein, en France comme ailleurs. Malforestation et monoculture. Il y a eu un documentaire très critique sorti l'an passé sur l'état de nos forêts. Il s'appelait Le Temps des forêts. Il est signé François-Xavier Drouet. On en écoute un extrait.
La forêt hétérogène, diversifiée et complexe, elle demande une présence sur le terrain, elle demande des gens qui habitent sur place, qui la regardent, des bûcherons qui comprennent le territoire, qui savent comment cette forêt s'en occupe, des scieries qui savent qu'à cet endroit-là le chêne est bon, à cet endroit-là il est mauvais, à cet endroit-là le châtaignier est bon, qui connaissent le territoire, qui savent le valoriser. C'est ce qu'on faisait en France, on a fait pendant 300 ans finalement. Toutes les scieries, dans chaque région, sciaient le bois qu'il y avait dans la région. On n'allait pas le transporter sur des camions, sur des centaines de kilomètres. Donc chaque région s'est adaptée aux produits qu'ils avaient. Dès que la gestion est faite par des organismes très loin du territoire, comme les déplacements coûtent cher, comme on n'est jamais sur place, on ne connaît pas bien le territoire, etc., tout ça doit être cadré, doit être simplifié à l'extrême. Et puis en plus, il faut que ça soit prévisible pour les actionnaires, pour les investisseurs. Et donc, on fait des forêts autoroutes. Voilà. Tout est prévu. Alors, ça va loin, parce que dans les Landes, on a des systèmes où, au moment où on plante, on a déjà programmé la coupe rase. Et on sait déjà quel diamètre on va récolter, quel volume on va récolter, à quel prix on va le vendre, a priori. Tout ça est simulé. Il y a des logiciels de simulation, d'expertise, qui vous permettent de savoir, bon, vous investissez tant, au final, vous récoltez tant, donc ça produit 2,5% de rendement. Compte tenu des avantages fiscaux, ça vous rajoute 1%, etc. Tout ça est prévisible. Dès qu'on est dans ces forêts-là, comme ici, pour prédire quelque chose. Hein.
Voilà, intervention de Gaëtan Dubus dans ce documentaire « Le temps des forêts », cette malforestation ou ce mal des forêts qui est en train aussi de se manifester en France. Comment vous l'entendez, Joël Zask?
Mais oui, non, effectivement, enfin, il est frappant de constater qu'au moment où tout le monde, pour de très bonnes raisons, s'intéresse à la vie des arbres, aux communautés qu'ils forment, à cette vie secrète qui se passe sous la terre entre leurs radicelles, eh bien, les arbres brûlent et les forêts se transforment en usines à bois ou, comme on dit, en désherboisées. Donc, effectivement, ce contraste,
ça relève d'une mécompréhension ou d'une volonté intentionnelle pour vous de s'approprier aussi ces réserves naturelles que sont les forêts. Il y a une intention maligne derrière ou c'est une mécompréhension de ce qu'étaient les forêts jusque-là?
Tout dépend des acteurs qu'on considère, mais oui, non, je pense qu'il y a effectivement dans la cécité vis-à-vis des méga-feux et dans le fait de ne pas voir qu'il y a forêt, une tentative aussi peut-être de dissimulation d'activités prédatrices pour la nature. Ça, c'est évident qu'il y a une collusion d'intérêts parfois, et à de nombreuses reprises un peu partout dans le monde, entre les lobbies, entre les multinationales et, disons, tous les usages productivistes, extractivistes de la forêt qui transforme celle-ci en, finalement, encore une fois, en usine à bois. Donc là, clairement, il y a effectivement un discours malhonnête, en particulier lorsque des multinationales se rachètent une conduite en disant « nous allons planter des arbres », mais de quelles arbres s'agit-il ? Voilà. C'est-à-dire, il est vrai que nous avons pollué, mais nous allons donner à la communauté internationale 10 000 arbres, 20 000 arbres. Enfin, c'est du pain ou de glace qui est destiné justement à la coupe rase. Je crois que c'est important même de rappeler, par exemple, où il était question des Landes, de rappeler que la forêt des Landes, c'est un projet de Napoléon, et du baron Haussmann d'ailleurs, et le terme qui est utilisé, c'est celui de colonisation. Et il n'est pas du tout question de créer un milieu de vie. C'est cette forêt des Landes, elle est pensée comme le contraire de la civilisation, c'est-à-dire comme une usine à bois destinée à alimenter, disons, la fabrique des navires, la construction d'un certain nombre de villes. Et c'est la première grande forêt industrielle, en quelque sorte, que l'on connaît. Avant, ou en tout cas après, le coton et le tabac. Mais là, on a des grandes productions industrielles, mais qui... Et le terme de colonisation, je trouve très approprié, parce que justement, il va s'appliquer aussi bien aux populations, aux gens, que à la ville, d'ailleurs, et ses quartiers insalubres, que à la nature et à la forêt, et aux campagnes et aux champs. Donc là, je crois qu'il y a effectivement quelque chose à dénoncer, et qu'il faut pluraliser, de même qu'il faut pluraliser notre rapport à la nature, il faut pluraliser notre rapport à la forêt. Il y a des forêts d'ordre extrêmement différents, et la forêt industrielle est à peine une forêt si on consulte notre registre enfantin et symbolique de la forêt. C'est tout le contraire d'une forêt, finalement.
Voilà, vous dites il y a des forêts et des forêts. Comme on entendait tout à l'heure, il y a des feux et des feux.
Oui,
ils ne sont pas tous de même nature. Qu'est-ce que vous appelez pluraliser notre rapport à la nature ?
C'est-à-dire, en fait, d'abord de s'en sentir en quelque sorte partie prenante, hein, je dirais, plutôt que extérieure, c'est-à-dire à la fois, nous n'en sommes ni le maître, encore moins le possesseur, ni finalement le spectateur, comme le voudrait un certain courant d'écologie, je dirais, radicale, et un but de préservationnisme. Donc là, se penser partie prenante, ça me semble déjà une chose très importante. Savoir ou revisiter, même, je dirais, à travers des textes ou à travers des témoignages, comme c'est le cas de l'entretien qu'on vient d'entendre, sur les métiers de la forêt, les bûcherons, les forestiers, qui ont beaucoup de choses à nous apprendre. Aujourd'hui, par exemple, les responsables des forêts, des parcs naturels en Australie consultent les aborigènes d'Australie. Donc il y a cette pluralité-là qui est en jeu aussi. C'est-à-dire la pluralité des usages anthropiques de la forêt qui concerne un très grand nombre de gens à travers des siècles et parfois même des millénaires qu'il faudrait aussi pouvoir en quelque sorte revisiter, repenser et intégrer dans une idée du « nous ». Voilà, je crois que le je doit laisser la place à nous. Mais il en va de même des animaux, des plantes, de ce qu'on appelle la biodiversité. C'est-à-dire qu'une forêt est nécessairement plurielle, et les aborigènes d'Australie, comme les Indiens d'Amazonie, le savent bien. C'est-à-dire qu'il y a de très beaux textes de Clifford Geertz concernant la maestria avec laquelle les Indiens d'Amazonie préservent la biodiversité, introduisent des plantes, créent des compagnonnages entre des plantes parfois lointaines, créent des espèces aussi, et maintiennent justement... la pluralité des espèces vivant dans la forêt. Donc il y a tout ce travail à faire qui me semble être une bonne réponse en quelque sorte, une réponse écologique, bien sûr pour la sauvegarde des forêts et la prévention contre les mégafeux, mais d'une manière générale pour penser la civilisation, pour penser notre rapport au monde extérieur et à la réalité, quelle qu'elle soit.
Voilà, et le soin, le care peuvent aussi être au cœur de la forêt. Ça, c'est encore un déplacement géographique qu'on peut faire en allant s'inspirer de ce qui se joue aujourd'hui au Japon avec la sylvothérapie.
Le bain de forêt ou Shinrin Yoku, pratique commune depuis les années 80 au Japon et des bienfaits scientifiquement prouvés par le professeur Miyazaki qui, depuis 25 ans, travaille sur le sujet.
Je vais vous montrer une image de la forêt. Restez bien assise, détendez-vous, c'est important.
pendant 1 minute 30.
Ces capteurs mesurent l'activité du cerveau préfrontal de cette étudiante. Elle est plongée dans le noir, face à une image de forêt.
Ici, c'est lorsque nous avons montré l'image de la forêt. Et tout de suite après, la courbe descend. Son activité cérébrale diminue, c'est-à-dire qu'elle est détendue.
La courbe remonte à la fin de l'expérience, lorsque l'étudiante n'a plus la forêt sous les yeux.
Quand on y réfléchit, ça ne fait que 200 ou 300 ans qu'on vit en ville. Et cette vie moderne nous demande beaucoup d'efforts d'adaptation. Et ça génère du stress. La nature, et la forêt en particulier, c'est tellement en nous qu'il en faut juste un peu pour que ça nous ramène à nos origines et nous apaise.
Voilà, pour autant, je ne sais pas comment vous réagissez à cet extrait, Joël Zas, que vous n'appelez pas un retour de tous et tous au cœur de la forêt, mais au contraire, à revoir cette autre croyance, cette autre forme de révérence qu'il peut y avoir, qu'est l'idéalisation de la forêt et de la nature qui nous entoure. Hein.
Oui, c'est-à-dire que effectivement, l'idée que la forêt serait, disons, un être originel, coche un peu dans le registre de l'enracinement, de la racine, et donc le registre, je dirais presque, de l'appropriation, de ici c'est chez moi, d'une forme de territorialisation. Et je pense que ces attitudes-là, d'ailleurs comme en témoignent beaucoup de peuples aussi autochtones, et même nos paysans d'une manière générale, qui n'avaient historiquement aucune tendance à l'appropriation, mais plus au partage et à la mise en commun et au maintien d'un accès à la terre. Donc, comme en témoigne tout cela, je dirais que il est important de passer, je dirais, d'un pied léger sur la terre. Il est important de la rencontrer. Il est important d'entrer en dialogue avec elle. Il est important, disons, de la cultiver tout en la gardant, hein, ce que fait Adam à Eden, par exemple. Ce qui est important, c'est de l'occuper de manière à en laisser toujours pour les autres, voire d'enrichir le patrimoine dont nous héritons. C'est ça que suppriment les feux aussi. Les feux suppriment cet héritage. Et donc, ce rapport-là, il me semble à la fois très universel. On en trouve des versions dans tous les mythes et dans toutes les cultures. Mais c'est un, disons, une idée qui est très éloignée, à mon sens, de l'idée d'une nature originelle et d'un ressourcement. Voilà, le ressourcement. Moi, on peut se ressourcer de toutes sortes de manières. Mais il est clair que le rapport à la nature en tant qu'expérience, le rapport à la nature en tant que création de soi, en tant que découverte de nouvelles potentialités, en tant qu'aire de jeu aussi, en tant que rapport ludique. Voilà ce qui constitue aussi quelque chose qui est fondamentalement, je pense, apaisant. Et il est vrai qu'aller à la rencontre des arbres peut jouer tout à fait ce rôle, mais non dans les termes, disons, d'un ressourcement, d'un enracinement, d'un contact avec quelque chose qui va sous la terre et qui s'élève vers le ciel. En fait, je crois que c'est une image qui n'a sans doute, qui doit parler à des gens, mais qui n'a pas l'universalité qu'on a tendance à lui prêter du fait de notre inféodation au registre de la racine.
Alors, dans cet essai, Joël Zas, quand la forêt brûle, pensez la nouvelle catastrophe écologique, vous appelez aussi à revoir, relire, pas simplement notre relation à la nature, mais aussi notre rapport au feu. On l'a déjà un peu évoqué. Elle est double, hein, cette relation au feu. Elle est aussi contradictoire à sa manière. On va écouter, pour terminer et à ce sujet, le causeur Gaston Bachelard, que vous citez aussi dans cet essai, auteur d'une psychanalyse du feu.
Le feu associe les valeurs contraires. Il est céleste ou infernal, il est bienfaisant et destructeur, il est vie et mort. Dans notre dernière conférence sur l'eau, nous parlions des eaux de jouvence. L'image du phénix qui renaît de ses cendres donnerait lieu à des réflexions toutes parallèles. Pour beaucoup d'entre nous, l'image du phénix est une image sclérosée. Elle est devenue un concept. Mais si nous replacions ce concept dans son primitif champ d'image, en revivant les valeurs de purification, les mythes du renouvellement du soleil, les mythes du rajeunissement des feux, nous sentirions que quelque chose en nous revit dans ces lointaines images.
Voilà, alors comment revoir cette relation au feu? Vous rappelez dans cet essai aussi que l'anthropocène s'est révélé pyrocène. Et c'est donc notre relation, cette attitude par rapport au feu qu'il faut repenser, et ça peut nous éclairer aussi.
Oui, encore une fois, c'est une activité parmi d'autres, mais il est vrai que, comme le dit Stephen Pine, ce grand historien du feu, partout où les hommes ont été, depuis, enfin, où les espèces humaines, et depuis Homo erectus, c'est-à-dire 1,6 million d'années, ils ont emmené le feu avec eux. Et donc, la planète, disons, est en partie forgée, modelée par les usages anthropiques du feu. Et donc, ce qui existe, ce qu'on connaît, ce qu'on a à tort, finalement, ce qu'on a tendance à associer à une forêt primaire, est en fait une nature qui a été aussi façonnée par ces usages anthropiques du feu, qui sont responsables des grandes plaines, par exemple, américaines, qui sont responsables du bush australien, etc., etc. Mais, évidemment, depuis des millions d'années, il y a une co-adaptation, un co-ajustement entre les pratiques humaines, en quelque sorte, notamment les pratiques de production de la subsistance, les rites, la chasse, le culte à la terre, etc. Et bien sûr, toutes les pratiques destinées à faire qu'il en reste toujours pour les autres, en quelque sorte. Comme disait Locke, à rendre, hein, à, disons, cultiver la terre de manière à en rendre à l'humanité et non pas à en prendre. C'était quelque chose qui était très présent dans l'esprit de John Locke, en fait. Et donc, ça c'est... Du coup, on peut... il est possible de parler de pyrocène à cet égard, dans la mesure où, parmi d'autres activités, le feu a quand même beaucoup contribué à donner à la Terre, à la planète, le visage qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais alors, très clairement, justement, la pyrocène se transforme en une époque pyromane. Voilà, c'est plutôt ce passage-là qui est très choquant aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens mettent le feu. Ils le mettent indirectement quand ils contribuent massivement au réchauffement climatique. Et je pense qu'il y a une différence à faire entre les très gros pollueurs et les petits pollueurs, qui sont souvent des gens aussi intoxiqués par des nouvelles fosses.
Ils mettent le feu tout en se créant un ennemi en mettant le feu, puisque le feu devient le grand ennemi à abattre par la suite.
Et voilà, tout à fait. Mais justement, ce qui justifie des investissements massifs dans ce qu'on appelle le complexe industriel du feu, dans l'armement en quelque sorte, la robotique, la fabrique de drones, la recherche, les équipements, etc., etc. Et je vous lis encore des articles en très grand nombre qui justifient un investissement massif de ce type, ce qui évidemment ne peut pas vraiment régler le problème. Et puis voilà, donc je dirais que c'est cette pyrocène transformée en terrain livré à la pyromanie, en quelque sorte, qui est véritablement problématique, mais que, disons que le retour, en quelque sorte, ou le retour, ou plus exactement la réinvention dans les nouvelles conditions, la réinvention d'un rapport juste ou adapté à notre environnement naturel, à notre milieu, pourrait redonner justement au, ce qu'on appelle au feu dirigé, à l'écobuage, la place qui est nécessaire pour l'entretien de la forêt.
Merci beaucoup à vous, Joël Zas, qu'on voit comment les mégafeux sont devenus aussi des révélateurs, des avertisseurs, et comment ils ont fait, ou ils font aujourd'hui encore voler en éclats nos croyances. Quand la forêt brûle, pensez la catastrophe écologique, vient de paraître aux éditions Premier Parallèle. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Maya Neskovic et Oriane Delacroix, alors à Dutèche Pérez et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse de Sophie Marty et de François Bréus. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancier, avec Alex Dang, à la vidéo Swad Boukorsa et Jordan Fuentes.